Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Eh bien, c'est quoi le sujet de cette deuxième partie de l'émission? Nous allons parler de communautés locales. Comment peuvent-elles tirer profit de l'exploitation forestière? Nous avons dans ces studios Monsieur Guy Nkajemba, coordonnateur du groupe de travail Climat Red Plus. Monsieur Guy, bonjour.
Bonjour.
C'est Jody, plutôt.
Bonjour Jody.
Bonjour, bienvenue dans cette émission. Nous avons également dans ce studio Jordan Mayenikini, journaliste de médias en ligne actualité.cd. Jordan, bonjour.
Bonjour, ici Jody Daniel Cachan.
Bienvenue dans cette émission. Pour participer à ce programme de la vie au quotidien, le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941. 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de ce programme. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde au micro. Jody Daniel Cachama. Bienvenue à tous.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bien, plusieurs zones forestières en RDC restent sous-développées malgré l'exploitation des bois d'œuvre et des bois précieux tels que le Wenge, la Formosia et autres. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante, il n'y a pas de route bitumée, etc. Par exemple, Inongo, la capitale du Maïndombe, vit au rythme des générateurs malgré la présence de la Société de développement des forêts Sodefor. Cette entreprise, l'une des plus anciennes du secteur, fait l'objet des critiques pour ne pas avoir assuré les développements de la province. Nous allons en savoir un peu plus tout à l'heure avec Jordan Mayenikini, journaliste qui a fait mener une enquête là-dessus. Avant cela, je donne la parole à Monsieur Guy Nkajemba, qui est coordonnateur du groupe des travaux climat Red Plus. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, comment est-ce que les communautés locales peuvent tirer profit de l'exploitation forestière?
À notre niveau, nous, dans le cadre du changement climatique, nous avons trouvé que c'est très compliqué. Ça fait des années et des années que les opérateurs industriels de bois sont sur le terrain et que ça ne change pas. Donc nous, notre combat a changé, nous avons changé de fusil d'épaule. Nous avons pensé beaucoup plus à la conservation, à la protection des forêts qu'à leur exploitation. Nous pensons qu'aujourd'hui, les communautés peuvent gagner plus facilement et bien si ils entrent dans tout ce qu'il y a comme processus de protection, de préservation des forêts. Et évidemment, avec ce qu'il y a, parce qu'il y a déjà des expériences dans le même Maïndombe avec d'autres programmes comme le projet WCERA, où on sent qu'il y a quand même le développement. Parce qu'en fait, le vrai problème par rapport aux exploitants industriels de bois, c'est qu'ils utilisent les bases juridiques anciennes qui les protègent un peu, hein. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le cahier des charges, il y a une loi. Et là, on ne parle que des écoles, on ne parle que des écoles, des centres de santé.
Centres de santé, des routes.
Et pendant 20 ans, on ne va pas continuer à construire des centres de santé et des routes, voyez-vous. Et il y a le développement et dimensionnel, c'est-à-dire qu'à 20 ans, quelqu'un doit tenir l'université, il fait quoi? Vous voyez? Par contre, dans les autres mécanismes que nous sommes en train de promouvoir, il y a ce que nous appelons les mécanismes de partage de bénéfices. Il y a la gouvernance, et il y a les consultations, et donc le besoin doit être défini en fonction des réalités locales par rapport à l'évolution. Ce n'est pas conservé dans un document où on dit « j'ai construit des écoles ». On peut construire des écoles, c'est bien, mais les écoles sans enseignants, ça fait quoi? Et les écoles, chaque village demande une école, on est où là? Parce que nous, dans l'État, on a étudié dans un internat mais à plus de 40 km où on avait des enseignants de compétences. Maintenant, c'est là on a des écoles qui n'ont pas d'enseignants qualifiés et ça pose un problème de développement. On marche sur place. Voilà.
Bien, Jordan Mayenikini, vous êtes journaliste d'actualité.cd. Vous avez mené une enquête sur... vous étiez à Inongo, vous avez mené une enquête sur le développement de ces localités et tout ça. Alors dites-nous... qu'est-ce qui avait motivé cette enquête et quels sont les résultats?
Bon, en fait, il s'agit normalement, c'était parce que nous avons eu à constater qu'il règne une sorte d'extrême pauvreté dans la province de Maïndombe, qui a pour chef-lieu Inongo. Alors, on s'était dit, vu que cette province regorge une grande partie des forêts, la forêt tropicale que nous avons en RDC, alors on s'était dit que nous pouvions au moins essayer de voir qu'est-ce qui se passe, parce que il y a les bois qui sont coupés tous les jours. Alors pourquoi la population ne bénéficie pas de tous ces bois qui sont coupés par toutes les entreprises forestières?
Il y en a plusieurs là-bas.
Vous avez Faulac, vous avez la plus grande d'ailleurs, c'est Sodefort, l'ex Forestcom. Alors on s'était concentré plus sur l'ex Forestcom, qui est la plus grande entreprise forestière au Maïndombé. Alors qu'est-ce que nous avons eu à constater? Nous avons eu à parler avec la population, qui déplore le fait que cette entreprise ne participe pas vraiment au développement de la province, parce que c'est l'une des anciennes. Je rappelle que l'ex-Forestcom s'est installé ici au Congo en 1912 par Léopold D, qui a été la première personne à installer l'ex-Forestcom. Et puis, il s'est énormément enrichi grâce à cette entreprise, jusqu'à même à créer la première tour de Kinshasa, qui est l'ex-Forestcom, les bâtiments que tous les Kinois connaissent.
Oui.
Et en 1974, Mobutu avait récupéré cette entreprise jusqu'à la nationaliser. 16 ans plus tard, cette entreprise va être rachetée par les groupes NST. NST qui regorge l'entreprise, qui regorge dans son sein l'entreprise Sodefort et Farabola. Alors, mais si vous allez au Maïndombé, vous constaterez qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable.
Il n'y a pas de routes bitumées,
malgré que les bois sont coupés tous les jours. Il y a des taxes qui sont payées, il y a de la redevance qui est payée, mais on ne sait pas où se dirige tout cet argent. Alors nous avons eu à discuter aussi également avec les membres de la DGRM, la Direction Générale des Recettes du Maïndombé, qui nous ont confirmé que l'entreprise telle que Sodefort paye valablement ses taxes, mais ses taxes, dès que ça arrive au niveau du compte de la province,
il y a détournement, tout ça.
Effectivement, il y a détournement, il y a disparition de l'argent, puisque on ne constate pas, on sent pas les développements. Il suffit d'arriver au Maïndombé, vous descendez même à l'aéroport, vous verrez que même la piste n'est pas macadamisé, si je peux le dire ainsi. Vous sentez en tout cas l'extrême pauvreté.
Alors,
on se pose la question où se dirige tout cet argent, l'argent des taxes, l'argent de la redevance, puisque c'est en termes de millions. Vous avez une entreprise comme Era Congo, qui est dans la vente des carbone, qui paye assez d'argent à l'État, mais vous ne sentez pas les développements. Donc, c'est vraiment une question très cruciale. Je pense que le ministre, Madame Eve Bazaïba, doit essayer de voir un peu, de tirer les choses au clair au niveau des Maïndombé. Donc, je pense que à la lire où évoluent les choses, c'est la situation est vraiment très grave. Très grave. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est la
société? Ces entreprises-là ont ce qu'on appelle des responsabilités sociales envers la communauté.
Effectivement.
Oui.
Effectivement, il y a les problèmes du cahier des charges. Là, d'ailleurs, la population que nous avons eu à interroger nous a évoqué cette situation. Il y a les cahiers des charges qui ne sont pas rentables pour la population. Ils ressemblent d'ailleurs, comme disent certains cadres de la province, que les cahiers des charges ressemblent au contrat léonin où la population est roulée. Parce que jusqu'à là, il y a des demandes que la population a pu formuler avec ces entreprises.
Ces entreprises ont eu des discussions avec les notables pour
Cahiers des charges, mais jusqu'à là, ça continue à traîner. Il y a des écoles qui ont été abandonnées. Il y a des hôpitaux qui jusqu'à là ne finissent pas. Mais on nous a évoqué les cas des Inongo, si vous êtes à Inongo Bolia, où vous avez une école qui devait être construite par la société Sodefort, mais qui a été abandonnée depuis 2007. Maintenant, nous sommes en 2023. Donc, voilà un peu ces genres de réalités qu'on doit soulever.
Monsieur Guy Kanjemba, votre réaction par rapport à ce qui se passe à Inongo là-bas?
Bon, comme je l'ai dit au départ, nous avions tous constaté depuis un certain temps que le développement ne passera pas par l'exploitation des sirops de bois, pour beaucoup de raisons. Les raisons, c'est comme on nous a dit, d'abord la gouvernance.
La gestion.
La gestion. Les raisons, c'est la fraude. Les raisons, c'est que la non-traçabilité. Et il y a beaucoup de raisons. Et ce que là, je veux dire encore de plus, c'est qu'il y a une responsabilité, et ça, c'est notre travail, nous, comme société civile, des communautés locales, dans la définition de leurs problèmes et dans la identification des besoins. Quand nous parlons avec le porteur de programme, les opérateurs sur le terrain, ils vous démontrent qu'ils sont ils respectent la loi.
Le cahier des charges.
Mais quel est le contenu, comme je vous disais au début? Le contenu, c'est quoi? C'est qu'on ne pense pas au vrai développement. Et après, il y a une confusion entre la responsabilité de l'autorité provinciale et l'opérateur du projet. Un programme, un projet, il ne va pas tout faire. On ne peut pas dire que si avant il n'y a pas d'aérodrome, c'est parce que c'est un problème où on doit se mobiliser au niveau local pour mettre ensemble les ressources. Et là, il y a tout. Quand vous arrivez là-bas, depuis qu'on a commencé à travailler là-bas depuis 2009, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de structuration de communauté. Il n'y avait pas un plan local de développement bien structuré pour dire qu'est-ce qu'on fait cette année, qu'est-ce qu'on fera dans 5 ans, pour les imposer à tout opérateur économique qui s'y présente.
Donc déjà, au niveau de la population, il n'y a pas cette organisation-là.
Oui, maintenant, il y a des efforts. Parce que là, peut-être notre co-débatteur n'a pas bien vu les autres parties. Hein, nous, parce que nous, vraiment, franchement, de ce côté-là, des exploitants de ces bois, nous ne sommes pas là-bas. C'est du gâchis. Depuis longtemps, on l'avait dit. Parce que ça fait des années, comme il a parlé de 2012, 2020. Et c'est partout en RDC. Il y a maintenant des évolutions, comme je disais la fois dernière, par rapport au nouveau programme qui est en train de développer par le Fonds National de l'Aide. Depuis que nous avons commencé le processus RED lui-même, pour essayer un peu de voir la chose autrement. De voir un peu s'il y a un moyen que les communautés elles-mêmes puissent, disons, définir par leur propre développement au lieu d'indexer des opérateurs.
Oui. Et là, c'est... Et d'abord, je pense qu'il doit y avoir un comité local de développement.
Ça, c'est la gouvernance locale. C'est en train d'être créé par les différents programmes, les pilotes qui sont là, les programmes intégrés. Il y a la définition de leurs propres besoins. Il y a le mécanisme, que moi j'appelais de partage de bénéfices clairs, qui n'ont rien à faire avec les cahiers des charges, parce que les cahiers des charges sont, comme on disait là, des contrats léonais, absolument. Et puis après, il s'est posé dans le temps un problème, parce que le CLD, c'est différent. Hein. Vous allez voir qu'un opérateur, comme Sodefort, quand il vient, il cherche le chef coutumier. Il donne à un chef coutumier une moto et il a le consentement. C'est pas ça. Le chef coutumier dit ça, c'est chez moi, le prenez.
Alors, personne ne dira le contraire.
Alors, qui travaille pour le sous-développement réellement? Vous comprenez?
Sont les chefs coutumiers.
Oui, mais ce sont des tout-puissants. Des tout-puissants, qu'il n'y a personne qui va le dire autre chose. Quand il a décidé, il peut donner toute la forêt à quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, dans les mécanismes, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Un CLD, c'est un comité de développement multi-affaires, où il y a tous les acteurs et tout le monde a le droit de dire quelque chose et on peut définir un peu les priorités. Et c'est sur base de ça que nous encourageons, nous, au niveau de la société civile, du CTCR. Ce que nous appelons, d'abord, quand on a le CLD, c'est qu'on a un plan local de développement. On a déjà des priorités.
Un instant, on va accueillir un auditeur qui nous appelle de Lubumbashi. Ismaël Mumpoi, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama. Bonjour à tous les amis auditeurs de la Radio Kapi.
On vous écoute. Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma première préoccupation, la première question, c'est de savoir qui peut payer la redevance. C'est une société ou l'État? Parce que, suivi les explications des invités, c'est peut-être que c'est une question floue, là. Nous voyons comme constant que la plupart des sociétés, que ce soit société minière ou société forestière, bon, la population soit en plus le pire et trouver. Mais en plus, cela pouvait se faire bien avant. Vous avez vous donné le permis d'exploitation pour une société. Mais c'est sur un cahier où vous allez dire, nous vous donnons tel étendue, vous allez exploiter pendant autant d'années. Mais avant d'exploiter pour les sociétés de ces peuples, vous allez faire ça. L'école, le centre de santé, la route, le courant. Mais à cause que ce contrat n'est pas respecté, et par l'État, et par la société, parce qu'au début de leur contrat, il n'y a pas une convention. Mais si vous allez prendre une société au milieu de leur exploitation, c'est quasiment difficile. Je peux vous donner un exemple ici à Lubumbashi. Nous avons CEDEM, nous avons Rush Mining. Mais vous ne trouverez aucune école construite par déjà des personnes. Aucun centre de santé. Vous trouverez même les quartiers périphériques de l'usine. Tout autour là, vous ne verrez même pas ces gens-là éclairés, même par une ampoule du courant. Mais la grande question maintenant, que je pose maintenant à l'invité, entre les chargés de sociales d'une société et de l'État, mais qui peut s'occuper de cette question-là, en vue que ceux qui sont assis sur les minéraux, ils n'ont ni courant, ni école, ni redevance. Qui peut être chargé pour recevoir cette redevance? Parce que cette redevance minière, il peut tirer profit de la population qui est un endroit là où on exploite les minéraux. Merci beaucoup, je vous remercie. Je remercie vraiment l'équipe de Okapi Service.
Bien. D'accord, merci d'avoir appelé depuis Lubumbashi, Israël Mumpoy. Monsieur Jordan, vous avez suivi, il dit que tout commence au début lors de des négociations. Est-ce que lorsque l'entreprise a négocié avec le gouvernement, est-ce qu'on avait, lors de l'élaboration des cahiers des charges, on avait pris en compte tous ces aspects liés au développement?
En fait, il y a, si je dois répondre à sa question, il y a tout un ministère. Parce qu'il s'agit ici de l'exploitation forestière, il y a le ministère de l'Environnement qui est là pour s'occuper de ces genres de situations. Mais concernant la réalité que nous observons sur terrain, je pense que les responsabilités sont partagées. Parce que lorsqu'on constate qu'il y a les redevances de l'exploitation forestière, vous avez les redevances de la vente des crédits carbone qui sont payés au niveau de l'État. L'État touche l'argent provenant de ces entreprises, mais vous constatez qu'en réalité, la province qui produit tout cet argent n'est pas développée. Or, ce n'est pas à ces entreprises qui sont, dans la plupart des cas, privées, de booster le développement de la province, mais c'est à l'État. Donc, vous sentez que, quelque part, c'est l'État qui est faillible. On se pose la question même si... si vous arrivez sur terrain, vous ne sentez même pas la présence de l'État, parce qu'on vous dira très bien qu'il y a ces entreprises qui se comportent en dictateur dans certaines régions où vous avez une entreprise qui occupe une très grande concession où on interdit même à la population de ne pas faire la cueillette, on interdit à la population de ne pas faire de la chasse, où on met des barricades alors que cette population-là est censée vivre dans cette partie du pays. Donc ça pose problème. Alors on se pose la question, qui doit remettre de l'ordre? Donc à un certain moment, on se rend compte que c'est l'État qui doit se prendre en charge pour essayer de remettre les choses au clair. Parce que si ça continue de la sorte, je pense que la situation...
Et quand on parle des contrats léonais, ça veut dire que ça a été négocié, bon, la va-vite, on signe, mais...
Effectivement, voilà c'est... pourquoi... Vous verrez que ce sont plus les politiques, parce que ce sont eux qui attribuent ces concessions-là, ce sont eux qui sont plus bénéficiaires que la population. Parce qu'on sait de quelle sorte ces contrats sont attribués. Parfois, ces contrats sont attribués de manière un peu opaque. Donc, ça continue à poser problème.
Donc, ceux qui négocient également leurs intérêts, bon, pour vous, les populations, on verra plus tard. Monsieur Guy Kanjeba.
Bon, je voudrais quand même qu'on puisse faire la part des choses.
Oui.
Je ne voudrais pas qu'on puisse ici confondre ou mettre au même pied d'égalité le marché, le crédit carbone et l'exploitation industrielle du bois.
D'accord. Un instant, il y a un auditeur qui est en ligne. Omar Kigalo, depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi, et bonjour aux invités.
On vous écoute.
Bonjour.
Merci, monsieur Jeudi, du verbe que vous m'adjugez. Je salue aussi les invités. J'ai trois préoccupations. Depuis toujours, je crois, même récemment, il y a une forte modification. Les codes miniers et les codes forestiers obligent aux exploitants d'initier des projets pour l'intérêt local. Ça, c'est vraiment une avancée que nous avons applaudie. Mais apparemment, les deux invités se contredisent. L'un dit que le travail a été fait, l'autre dit que ça n'a pas été fait selon la réalité.
Oui, maître. Allô?
Alors, je veux savoir qu'est-ce qui doit être réellement fait. Est-ce des écoles, des centres de santé ou des projets par rapport aux besoins de la population? Qu'est-ce qui doit être réellement fait? Parce que la loi se limite à dire il faut initier et exécuter des travaux pour l'intérêt de la communauté. Qu'est-ce qui doit être réellement fait? C'est ça ma question.
Ce qui doit être réellement fait, je pense que c'est le respect des cahiers des charges. Lorsque vous signez ensemble, vous réalisez ensemble les cahiers des charges avec la population qui vous dit par exemple nous avons besoin d'une école, nous avons besoin d'un centre de santé, nous avons besoin d'un terrain de football, nous avons besoin d'un marché moderne.
D'un centre de santé.
Il faut respecter ce que la population arrive à consigner dans les cahiers des charges. Or, si vous descendez sur terrain, vous verrez que tel n'est pas le cas. Vous avez des entreprises qui continuent à exploiter sans réaliser les cahiers des charges signés avec la population. Et ça pose problème.
Merci beaucoup, parce qu'il y avait apparemment une contradiction entre les deux invités, mais là j'ai compris. Parce que d'après la loi, il faut une fois sur terrain faire l'étude du milieu et l'étude de besoins de la population. C'est en raison de cela qu'on fait. Même lorsque l'État évalue, ils évaluent en termes du cahier des charges qui est établi, non pas pour favoriser une partie, mais pour permettre à la population de se retrouver. Merci de la réponse. Deuxième question. Le même loi, c'est-à-dire les codes miniers et les codes forestiers disent les responsables étatiques, je fais allusion au ministère de l'Environnement et des Mines, doivent chaque fin de l'année passer pour évaluer si le cahier des charges est respecté. Est-ce que dans leur enquête, ils ont vu aussi ou associé l'État pour voir si l'État fait sa part? Parce qu'on l'a dit à la première thématique, nous avons des dirigeants qui se limitent à chanter et applaudir, des chantres et des anti-valeurs qui encouragent, mais qui ne font pas leur travail. La loi oblige au gouvernement, aux autorités de tutelle,
à faire l'évaluation,
l'environnement, d'aller sur le terrain, oui, des suivis, de faire des rapports. Et si les rapports sont convaincants et que l'exploitant n'a pas respecté, comme le dit l'invité, il doit être sanctionné ou voir son agrément être retiré. Est-ce que cela est fait? Est-ce qu'ils ont posé la question aux autorités locales? Dernière question. Est-ce que lorsqu'ils exploitent au-delà des travaux d'intérêt local qui doivent être faits au profit de la population, est-ce qu'ils respectent les codes de l'environnement? Parce que lorsqu'on exploite de manière agricole, il est interdit de faire des déboisements abusifs. Est-ce qu'ils ne font pas des déboisements abusifs? Si oui, est-ce qu'ils ont dénoncé des anciennes valeurs qu'ils ont trouvées? Des deux, la loi oblige lorsqu'on exploite de manière agricole qu'on fasse les reboisements. Parce qu'on doit protéger l'environnement parce que les arbres sont d'un intérêt très capital pour la vie humaine. Est-ce que les reboisements sont respectés? Est-ce que les normes environnementales, au-delà des aspects locaux et sociaux, sont vraiment respectées? Ce sont là mes questions et je félicite vraiment les invités qui ont mené cette étude.
Bien, merci, Monsieur Guy Kajemba.
Merci beaucoup. En principe, je suis très gêné dans ce genre de débat parce que moi, je travaille sur une autre partie du travail. C'est-à-dire que moi, comme je vous dis, cette histoire d'exploitation.
Vous êtes plus dans la conservation.
Cette histoire d'exploitation industrielle du bois nous a fait couler d'encre depuis des années. Nous avons souffert. On n'a même pas eu de gain de cause.
Oui.
Ça, c'est même au niveau de l'Union européenne par rapport à la traçabilité, par rapport au flet de APV et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose. Après ça, je continue à insister sur qu'est-ce qu'on appelle population. Je l'ai dit encore au début. Qu'est-ce qu'on appelle population? C'est là où le jeu se joue avec l'exploitant. Quand il vous dit qu'il a consulté la population, il a vécu. Je pense que nous sommes en train de travailler ensemble pour la révision du code forestier, pour qu'on puisse l'adapter à la réalité, pour qu'on puisse intégrer les notions du CLIP, consentement libre, informé et préalable. C'est pas venir voir un chef coutumier, un chef du village tout puissant, et qui vous dit, bon, moi, j'ai besoin de ceci. Vous allez voir, quand nous, on va plus profondément, on trouve des populations, surtout des femmes, frustrées. Parce que le mécanisme, ce n'est pas participatif. Il y a des endroits où la femme ne peut pas se présenter pour parler devant les hommes. Vous voyez, tous ces débats-là nous mettent dans une situation où nous pensons, nous aujourd'hui, qu'il faut repenser ce genre de choses pour essayer d'avancer. Et je disais encore une fois ici que c'est tout ce que nous sommes en train de travailler sur les forêts des communautés locales, nous sommes en train de travailler sur la structuration des communautés, les vraies, parce que tout le monde parle au nom de la population. Quelqu'un peut se retrouver à Londres et dire les populations.
Il s'agit de quelle population?
Ça, oui. Alors les populations, on dit. Il faut pas que quelqu'un qui quitte Paris, il va à Maïndombe, il fait deux jours et il vient et dit qu'il a vu la population. D'abord, le premier jour, quand on te voit, tu es blanc. Le deuxième jour, on te regarde. Le troisième jour, tu pars. Tu n'as pas la vraie vérité.
Donc, c'est mais tout. Il va parler au nom de la population.
Il dit que les populations ont dit parce qu'il a vu des gens qui l'ont dit parce qu'ils ont vu un blanc. Donc, J'insiste, enfin, je crois qu'il y a le problème, on ne va pas dans ce débat, un débat très compliqué, parce que nous avons un débat sur la gouvernance entière par rapport aux mines et par rapport au reste. La pauvreté est là. Donc ça, c'est encore, ça peut faire encore besoin de beaucoup d'émissions.
Donc tout tourne autour de la gouvernance. La gouvernance, c'est une question de gouvernance.
C'est gangrène. On dit que c'est un pays le potentiellement riche où on trouve la plus grande pauvreté. C'est pas seulement Maïndombe, aller à Bicor, aller ailleurs où il y a
c'est
des
pareil, forêts.
Oui. Vous trouvez les enfants assis par terre, monsieur. Assis par terre, au moins il y a les boîtes. Est-ce que c'est, je sais pas, je ne comprends pas. Donc je me dis qu'il y a un effort à faire à un autre niveau, pour que nous puissions conjuguer les efforts ensemble.
Bien, vous étiez en train de parler du crédit carbone.
Oui, j'insistais sur les questions du crédit carbone, parce que le crédit carbone sort un peu de ces contraintes-là. On ne peut pas vendre le crédit carbone avec un accord avec un gouvernement. Il y a un travail à faire au niveau international. Nous parlons ici de la réduction des émissions. Et il y a des conditionnalités qui sont strictes. Si Air a vendu carbone aujourd'hui, il vient de faire 10 ans en train de préparer, de travailler sur ces conditionnalités. C'est pas mécanique comme on vient ici, on voit un ministre, il vous donne un arrêté pour aller exploiter les bois et commencer à couper les bois. C'est pas ça. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ça vient de commencer. Ouais, c'est la première fois que dans ce pays, moi, je vois un marché carbone. Par rapport aux autres qui sont là depuis 2020, 2012 ou 2000 choses comme ça. Et je crois que si nous nous concentrons à essayer un peu on a des facilités au moins d'avoir les populations qui vont décider sur leur propre sort, parce que c'est une condition pour accéder à ces marchés. Vous devez avoir les cahiers des charges vous devez structurer les communautés, vous devez faire la cartographie, vous devez faire l'inventaire de ressources, vous devez faire le plan local de l'aménagement du territoire. Il y a beaucoup. Vous devez avoir des signatures de toutes les communautés concernées. Et ça, c'est pas pour vous justifier devant le gouvernement, c'est pour avoir le fonds aller ailleurs. Par rapport à celui qui vient avec son argent, qui va dans une banque, quelque part, c'est pas moi, il vient, il dit, moi, j'ai de fonds levés pour l'exploitation industrielle, donne-moi l'espace. Et on vous donne l'espace. Je me souviens, j'ai vu là où on a, avec un hélicoptère, on a donné l'espace, il y avait l'église dedans. Quand vous voyez, Inongo appartient, la partie Inongo est une concession de quelqu'un qu'on a fait de la ville. C'est grave. C'est grave. Il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle cet agent, cette concession-là, je pense qu'on doit la connaître.
Qui appartient à un individu.
Quand on voit la carte.
Oui.
Quand on voit la carte telle que tracée, quand le monsieur vient ici à Kinshasa, il donne l'argent, on prend la carte, on dit bon voilà, concession. Mais quand on voit la carte, réellement, la ville est dans
sa concession.
C'est pas possible. et là où je veux revenir sur le carbone, parce que le carbone n'a pas besoin de tout ça. On ne vient rien chercher, on part avec rien. On vous demande de conserver votre forêt, on vous donne les ressources. Aujourd'hui, là, c'est maintenant le débat sur la gouvernance. C'est, le projet R appartient à lui-même là, dans le peu de temps qu'il est là depuis 2017. Il a généré 4 millions pour la province. Dans les comptes de la province, c'est 4 millions de dollars sont entrés dans une année. Ce ne sont pas leurs recettes. Maintenant, le problème de la gestion, ça, c'est un autre débat. C'est toute la République qui pose des problèmes de gestion.
Mais la gouvernance,
les détournements et tout ça, ça tout c'est ça. Une discussion.
On va accueillir Laurent Mignon de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jordi Daniel Kachama. Merci pour cette belle opportunité offerte. Je salue l'invité, je salue toute la population congolaise. Vraiment, c'est un sujet vraiment très alléchant. Je pense que la RDC a un bassin forestier très énorme. Mais au regard de ce que nous faisons sur le terrain, les communautés n'en bénéficient pas, à Inongo, pas par rapport à ce sujet ici. On se rend compte que les sociétés-là ne respectent pas les cahiers des charges, mais aussi l'État congolais est vraiment défaillant. Mais comment expliquer? Les gens qui signent, les gens qui signent et qu'elle est avec l'État congolais, mais sur le terrain, on ne sait rien. Mais c'est à l'État congolais de sanctionner tous ces récalcitrants. Mais je pense que ce qui tue la plupart de nos politiciens, la plupart de nos gouvernants, c'est la perplexité. Ils sont vraiment perplexes. Hein? Certains ministres aujourd'hui, ils se tournent même si pas des quotas politiques. Mais regardez ce qu'ils font. Les ministères attitrés, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, parce que parce qu'il a mouillé maillot pour le chef de l'État, pas fait ses misères, on a boué. Mais à la fin, on ne sait rien. Mais je pense que nous devons quitter vraiment l'école du idéalisme. Nous devons vraiment entrer dans l'école du réalisme. La question que moi je peux poser aux éditeurs, qu'ils comptent faire quoi? Ils comptent faire quoi pour ces populations-là? Ils comptent faire quoi pour que ces populations-là Il retrouve aussi le sourire. Hein? Bon, la France, mais trop de Français, trop de... Non! Quelle est la solution que vous préconisez pour que tous ces peuples-là puissent retrouver?
Voilà, pas beaucoup de Français, mais des solutions. On veut de... Laurent Mignon veut des solutions. Merci beaucoup d'avoir appelé Jordan Mayenkimi. Alors, il y a d'abord la première, il y a eu quelques questions qui ont été posées par le premier intervenant qui dit qu'il est, le code prévoit qu'il y ait évaluation. Chaque année, l'État doit évaluer tout ça, l'exécution du contrat, etc. Il a parlé du code de l'environnement, les déboisements abusifs, le reboisement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces préoccupations de Maître Omar?
En fait, voilà pourquoi je disais que vous remarquerez que c'est l'État qui est faillible parce qu'on se pose la question. Mon co-débatteur venait de dire que ERA, par exemple, a généré puis des 4 millions de dollars dans les caisses de la province. Vous voyez? Donc ça prouve déjà que il y a une mauvaise gouvernance, je peux dire, parce que lorsque l'on constate qu'il y a plusieurs recettes qui se font, mais si vous descendez sur terrain, vous verrez des enfants qui n'ont même pas des baskets, des enfants qui n'ont pas d'habits, vous verrez qu'il n'y a pas d'électricité, il y a pas. Voilà pourquoi vous verrez, c'est difficile qu'il y ait suivi dans ces genres de dossiers. Donc parce que il y a cette opacité là qui règne, ça en profite à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent dans ces désordres là. Donc c'est vraiment un désordre organisé qui font qu'il y a pas des sanctions. C'est comme une sorte de jungle où dans cette jungle là vous avez les rois de la forêt qui se retrouvent. Donc je pense que on doit essayer de revoir un peu cette situation. Je reviens un peu à l'entreprise qui nous a concerné dans la réalisation de notre enquête qui est sur des forts. Nous par exemple, on a eu cette chance là de bien réaliser notre enquête parce que nous ne sommes pas des blancs comme venait de dire mon co-débatteur. Nous ne sommes des Congolais, on a la peau noir et nous avons l'avantage aussi de parler la langue locale. Donc lorsque nous arrivons là-bas, c'est facile pour nous de se familiariser avec la population pour que celle-ci puisse nous livrer des informations les plus pertinentes qui nous ont aidé à réaliser cette enquête. Nous avons eu à parler par exemple avec les fonds forestiers nationaux qui a son bureau là-bas, qui est une structure appartenant au ministère de l'Environnement. Nous avons eu à interroger Greenpeace. Nous avons y interrogé les notables des Maïndombe qui nous ont fait voir que la population, en tout cas, n'en profite pas de l'exploitation forestière au niveau de leur province. D'ailleurs, ça saute aux yeux. Il suffit d'arriver à l'aérodrome, des surquilés Inongo, des surquilés Nyoki, qui fait aussi partie des Maïndombe. Vous constaterez qui a une extrême pauvreté.
Est-ce que vous avez eu le temps d'approcher les officiels pour avoir leur version des faits, pour savoir pourquoi?
Effectivement, nous avons eu, par exemple, nous avons pris langue avec les Dirkab, les Dirkaba de la province, comment il s'appelle, la gouverneure Rita Bola, c'est elle qui dirige la province. Nous avons eu à interroger d'autres officiels qui ont requis l'anonymat parce qu'il s'agit des questions, en tout cas, très sensibles. Donc, et on n'est pas ici obligé de dévoiler toutes nos sources étant journaliste, mais nous vous disons les choses de façon claire, en tout cas, les cahiers des charges. Imaginez qu'il y a des infrastructures qui datent des 2007, qui jusque-là ne sont pas réalisées, qui sont abandonnées à leur triste sort, et il n'y a personne pour faire les suivis, pour accompagner à ce qu'il y ait réalisation de ces infrastructures. Donc c'est vraiment une situation très grave où je pense que si vous avez une entreprise comme Sodefort qui la plus grande partie, je peux dire les 70%
de l'exploitation du bois
provient de la province de Maïndombe, mais quand vous regardez la province, c'est regrettable. Alors qu'il y a des gens qui font des millions derrière ça. Oui. J'ai été dernièrement aussi à Mbandaka, à Bikoro, à Ingende. C'est la même chose. Vous avez les Chinois qui exploitent les bois, les Chinois qui sont dans la forêt équatoriale, qui coupent matin, midi et soir des bois qui sont qui partent à l'extérieur du pays. Mais regardez dans quelle situation vivent les Pygmées, les propriétaires de cette forêt. Vous sentez qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'électricité, pauvreté, ils ne font rien. C'est l'extrême pauvreté.
Oui.
L'extrême pauvreté. Alors qu'il y a des millions qui partent à l'extérieur.
Voilà. Est-ce que c'est tout cet argent-là servira à développer, à en finir avec la pauvreté
qu'il y a dans le pays? Ça peut contribuer au développement de la province. Vous pouvez imaginer qu'en Mbandaka, il n'y a pas d'électricité.
Mbandaka vit toujours. C'est depuis toujours.
Mais ça doit cesser. Je pense qu'à un certain moment, on doit taper le point sur la table pour dire que non, en tout cas, les développements doivent. Si en Mbandaka, il n'y a pas d'électricité, et quel serait l'essor des Bikoro? Quel serait l'essor des Ingende? Parce que les chefs liés, déjà, vous sentez une extrême pauvreté de ce côté-là. Donc, je pense qu'il est temps, en tout cas, que tous les Congolais puissent se mettre debout, que tous les Congolais puissent ouvrir les yeux par rapport à ces genres de situations.
On va accueillir Chera Moindo depuis Beni. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question, Chera?
Ma contribution était au niveau la proposition pour moi, c'était que si les communautés locales pouvaient s'approprier la foresterie communautaire, moi je pense que ça serait l'une des meilleures solutions pour que les communautés locales puissent bénéficier des forêts qui sont dans leur village. Parce que le constat est tellement amer, nous qui travaillons à forêt, je peux donner un petit exemple par rapport à l'Ituri où nous intervenons trop souvent. Il y a eu un moment donné où les chefs avec un commerçant local se sont convenus pour octroyer une concession de 10 000 hectares. Et il faut voir, le chef, on lui a octroyé une voiture, on a donné au chef un groupement de motos. Et on se demande maintenant quelle est la part de la communauté dans tout cela. Et donc, vous allez voir, à complicité avec certaines autorités, que ce soit le chef de division de l'environnement, et c'est certains chefs au niveau local, et ils s'entretiennent là, ils prennent des conventions sur l'exploitation de la forêt, et les communautés locales ne bénéficient à rien. C'est pourquoi, à mon avis, moi je pense que avec la foresterie communautaire, les communautés peuvent bien bénéficier de leur forêt. Et c'est la recommandation que moi je pouvais donner à nos communautés locales à l'heure actuelle. Parce qu'ils auront beaucoup d'avantages, l'exploitation restera entre leurs mains, et aussi, il y a aussi l'ajout qui va arriver, comme l'édité était en train de l'expliquer, les crédits carbone qui vont venir d'ici là. Je sais qu'il y a certaines communautés qui vont commencer déjà à bénéficier de ces crédits carbone. Moi, je pense que c'est l'une de
merci, Chera. Merci, Chera. D'accord, merci, Chera Moindo, depuis la ville de Beni. Monsieur Guillaume Kajemba, votre réaction?
Merci, je suis un peu réconforté parce que je sens qu'on est en train de converger.
Oui.
On a posé une question sur la solution. Il n'y a pas de solution dans un pays mal gouverné par rapport à cette question. Il n'y a pas de solution. Vous voulez quoi? Il faut un changement radical de mentalité.
Il faut la bonne gouvernance.
Le pays est foutu partout. Donc ça, c'est un autre débat. Et c'est là où on ne peut pas trouver de solution maintenant ici. Et c'est pourquoi nous continuons à passer comme les derniers auditeurs. L'avantage qu'il y a dans la conservation, dans le processus, dans le changement climatique, l'éclairage et le carbone, c'est que c'est de plus cette façon-là de voir les choses. Le paiement, on appelle ça paiement basé sur les résultats, avec ce qu'on appelle le coût d'opportunité, parce qu'en fait, c'est un engagement international. Quand on voit une forêt de communauté locale et que vous engagez à les protéger, vous êtes payé au prorata des efforts que vous avez fournis au niveau international par rapport à ce que vous avez fourni. Il ne s'agit pas ici de déplacer des excavateurs, de quelques petits Chinois. c'est pas ça. Là, maintenant, c'est pourquoi nous continuons à insister, comme le dernier intervenant, qu'il faut laisser maintenant...
La foresterie communautaire.
La chance est maintenant aux communautés aujourd'hui de disposer de leur forêt en levant des options sur oui ou non nous les conservons ou ne les conservons pas. Et si nous les conservons, qu'est-ce que nous avons à gagner? Et là, c'est ça le mécanisme RED qui nous accompagne. Nous quittons, nous ne voulons plus faire ce débat-là avec les exploitants.
Alors, quand on parle de la foresterie communautaire, cela veut dire que c'est la communauté qui signe avec les entreprises qui viennent exploiter le bois.
C'est tout ce que nous avons dit là. Donc, le forêt des communautés locales, c'est eux. Donc, on a une communauté qui a une forêt, qui a un CLD, qui définit les priorités, avec qui il va signer les contrats. Lui, pas imposé, pas quelqu'un qui vient avec des papiers qui viennent de quelque part. C'est la communauté qui fait les choix, qui lève les options sur ce qu'il doit faire, s'il a besoin, ce qu'il doit faire. Et je continue à insister ici qu'une école, c'est pas ça le développement. Sinon, c'est que j'ai trouvé quand même quelque part avec Ferabola, où on a un village où il y a plus de 15 écoles, vides, avec moins de 10 élèves.
Pourquoi les enfants ne veulent pas étudier? Bon, les parents n'ont pas de...
Il y a des écoles qui ne sont pas mécanisées. L'entreprise forestière, par exemple, peut construire des écoles, mais c'est à l'État de mécaniser pour que les enseignants aussi soient payés. Parce que quand les enseignants ne sont pas payés, ils vont en banque. Ça ne sert à rien.
Des simples bâtiments.
Alors c'est pour nous, nous continuons à penser qu'il faut encourager les communautés à changer des ratifs, comme disait le même politique. À laisser un peu cette histoire parce que en fait en même temps aussi on s'entend qu'il y a une perte de vitesse de ces exploitants là. Ils commencent à réduire les actions, d'autres passent, d'autres ferment, ils laissent les investissements en désordre, ils n'ont pas laissé des mécanismes pour la pérennité et ça pose beaucoup de problèmes. L'hôpital disparaît, il n'y a pas de médicaments. Après il y a un conflit des communautés par rapport aux prestataires. Si les médecins doivent quitter Bolia pour aller, doivent quitter Longo pour aller soigner les gens à Bolia, parce qu'à Bolia, il n'y a pas de médecins. Et après, on dit que l'hôpital a été construit chez nous, ce n'est pas chez lui. Donc, tout ce débat-là doit être traité dans une autre forme de discussion. C'est comme nous disons qu'il faut revoir les instruments pour permettre à ce que les communautés puissent être le plus grand bénéficiaire direct de leur forêt. Et ça ne peut se faire que si... On quitte un peu ces mécanismes-là de c'est pas moi, du banditisme commercial international où on vient exploiter comme on fait les mines, comme on fait avec les diamants. C'est la même chose avec les forêts. Ils font la même chose. C'est depuis des années, ça n'avance pas.
Monsieur Jordan.
Vraiment, je pense que je partage l'envie, je partage l'avis de mon co-débatteur.
Alors, un instant, il y a un auditeur en ligne depuis Kindu, ingénieur John. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit merci beaucoup.
Bien, nous abordons ce thème, comment permettre aux communautés locales de tirer profit de l'exploitation forestière. Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup. J'ai trois petites questions à adresser aux invités. La première question, c'est, je voudrais savoir quelle est la superficie où le parquet de forêt à abattre par an par les sociétés forestières. Deuxième petite question, ce parquet est-il reboisé? Troisième question, il y a un invité à côté de vous qui s'intéresse à l'aspect conservation. Mais pourquoi on ne met pas d'accent sur la création du paysage forestier, même dans les écosystèmes savanicoles, dont les avantages sont légion? On entend chaque année des incendies de villages suite au feu de brousse, alors qu'une ceinture de forêt derrière les habitations protège le village et engendre des avantages économiques à côté des avantages écologiques. C'est ingénieur John Lukika depuis la ville de Kindu, le vulgarisateur agricole indépendant. Je vous remercie puisque vous avez également répondu à mon courrier.
D'accord, merci ingénieur John. Bien, vous avez la parole, Jordan. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire rapidement?
Voilà, j'étais en train de dire que je partage l'avis de mon co-débatteur, qui étant donné qu'on va rester dans une situation où vous réveillez un bon matin, vous habitez par exemple à Inongo, vous réveillez un bon matin, vous voyez 10 Chinois qui débarquent et puis... directement, ils viennent avec des documents qui vont présenter, non, à partir d'ici, jusqu'ici,
jusque-là,
ça nous appartient, on va exploiter les bois, et puis on commence à chasser la population de leurs endroits
habituels. Et qui les accompagne? Les chefs coutumiers
et puis les autorités locales. vous avez les autorités locales qui sont avec eux, qui à chaque fois que la population essaye de manifester, qui envoie des policiers.
Les policiers, pour les maîtriser.
Donc,
on
voilà
vous dit,
pourquoi
à partir
on disait,
d'aujourd'hui, allez, dégagez.
Effectivement, voilà pourquoi on disait que c'est un désordre organisé. Donc, dans ces désordres-là, vous avez des gens qui se retrouvent. Mmh. Voilà pourquoi vous constaterez que on continue, ces désordres-là persistent parce qu'il y a des gens qui se font de l'argent derrière. Donc, c'est maintenant aux communautés locales de s'élever, de dire non, nous ne voulons plus ces genres de situations où vous avez des Chinois qui viennent. Par exemple, à la forêt équatorienne, chez les Pygmées, quand j'y étais l'autre fois, on a trouvé toute une route tracée au niveau de la forêt équatoriale, mmh. où on m'a dit que non, ici, d'ailleurs on voyait les camions qui sortaient de la forêt avec plusieurs bois, une entreprise qui n'est pas connue, je ne pense pas que cette entreprise-là a tous les documents qu'il faut, qui est dans l'exploitation irrégulière, illégale, mais nous constatons que l'entreprise continue à exploiter. Donc, si vous posez la question, on vous dira que non, ah, là-bas, il ne faut pas toucher, il y a tel général, il y a tel politicien.
Il y avait un moratoire sur l'exploitation du bois. Est-ce que c'est toujours de...
Mais nous savons comment les pays fonctionnent. Même lorsqu'on donne un moratoire, il y a des gens qui continuent. À exploiter, il y a jusque là l'exploitation continue dans ces désordres là organisés, parce que dans ces désordres organisés beaucoup de gens se font des millions et ils n'accepteront pas qu'il y ait de l'ordre. Donc je pense que c'est vraiment une question.
Mais où... M. Guy est fatigué de tout ça.
Lui d'ailleurs il est fatigué. Lorsqu'il y a mauvaise gouvernance, on doit s'attendre à rien.
Il a parlé de tout ça, il a dénoncé depuis des années. Mais
il y a ça qui m'intéresse par rapport à la dernière question.
Oui.
L'ingénieur, vraiment, je comprends qu'il est avec nous. Ça fait partie et c'est important. Dans la conservation, dans la protection des forêts, on parle de ce qu'on appelle des zones de fuite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engager, c'est tout ça le problème, on ne peut pas engager la communauté dans un projet au moment où on sait qu'à un moment donné, elle peut se mettre à détruire la même forêt. C'est finalement, c'est lui qui a mis les moyens qui doit rembourser cet argent, parce que ce sont des paiements basés sur les résultats. Et que donc, dans la complexité de tout ce travail, il y a des programmes qui sont en cours de développement, parce que nous avions, comme vous l'avez dit la fois dernière, on avait 500 millions de dollars dans le fonds CAFI, où on développe des projets de paiement de services environnementaux. Le paiement direct de services environnementaux sur les voisins, sur les efforts faits. Là, c'est direct avec les communautés. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de documents à faire, il n'y a pas de ministre à l'intérieur, tout ça. Et après ça, il y a tout ce travail-là de zones tampons et de protection de savanes, parce qu'en fait, les émissions, comme on dit, sont globales. C'est-à-dire que quand on brûle la forêt à Bateke ici, c'est des gaz qu'on aimait. Voyez. Donc c'est tout ça c'est qui fait notre créneau aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons passé à orienter notre travail pour voir si un jour ou l'autre, on peut réduire la pauvreté de ces communautés en faisant ce qu'ils soient payés sur base des efforts qu'ils consentis d'abord pour le futur et qu'ils ont consenti historiquement, parce que nous sommes à 0,3% de déforestation. Nous avons toute la forêt entière, on a toutes les potentialités pour les exploiter. Et que, voilà.
Bien, merci. On va terminer avec la question d'Ismaël de Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Yuri Daniel Kacharma. Bonjour à tout le monde.
Rapidement, quelle est votre question?
Oui, la préoccupation est celle que quand on donne ces contrats, nous avons les chefs coutumiers et nous avons aussi les cadastres. Mais par rapport à des... qui peut être habilité de donner une concession en vue d'une exploitation? La dernière question, c'est de savoir, en cas de déboisement et reboisement, ça peut être obligatoire ou facultatif, parce que nous comprenons que les forêts congolaises jouent un grand rôle, que ce soit pour les Congolais, que ce soit pour le monde entier, parce que nous avons compris que le Congo est un pays de solution. Mais de quelle façon aujourd'hui, si on exploite des bois et qu'on ne reboise pas, et comment le Congo continuerait d'être le pays de solution en vue de gaz? Merci beaucoup.
Merci Ismaël. Jordan Mayenkine.
Bien, pour la première question, il s'agit bien, il faut qu'il y ait la signature du ministre de l'Environnement. Et d'ailleurs, dans la plupart des concessions qui ont été aussi mal octroyées, vous avez plusieurs ministres de l'Environnement qui ont défilé dans notre pays, qui sont aussi à la base de ces situations que nous déplorons aujourd'hui. Ils ont été impliqués et il y a certaines concessions qui ont été mal octroyées ou on peut dire que la population ne continue pas à bénéficier de ces concessions ou vous sentez l'implication de la politique. Donc la politique en tout cas, elle intervient partout. C'est cette politique-là qui devrait normalement arranger la situation, mais malheureusement nous constatons sur terrain que cette politique est en train de mal agir.
De pourrir les choses.
Oui, de pourrir les choses, de jouer contre la population. Donc je pense que si les politiciens, surtout le ministère de l'Environnement, arrivent à se mettre debout, à pouvoir valoriser en tout cas les intérêts de la population, les choses vont changer. Mais étant donné que nous allons continuer dans ces genres de situations, les choses ne feront qu'aller
aller de mal en pis. Oui. Monsieur Guy Kanjemba, on dit que nous sommes un pays solution. Alors, il se demande par rapport au reboisement, tout ça, est-ce qu'on peut toujours affirmer qu'on est un pays solution?
Non, mais il faut. Bon, moi, je n'encourage pas ce genre de discussion sur le pays solution des reboisements. Pourquoi est-ce que la France, est-ce qu'il est interdit à la France de reboiser pour être un pays solution? Le reboisement, c'est-à-dire couper pour planter, c'est pas ça la solution. C'est pas ce qui fait de nous les leaders des forêts. Sinon, les autres allaient faire la même chose. On a été à Paris, ailleurs. Ils ont des espaces. Ils ont essayé de planter des arbres, mais c'est pas ça.
C'est pas ça.
C'est pas couper pour planter. Comme j'ai dit ici, il y a tout un besoin. Donc, la réduction de la déforestation passe par une définition des zones tampons où on doit avoir nécessairement besoin d'avoir de bois pour les travaux. Et ça, on peut le faire sortir. Là, c'est là où on coupe, on reboise. Ou on reboise pour la tentative
à Macaron. On a plus beaucoup de temps, voilà.
Donc,
Guy.
Donc, la solution n'est pas...
Oui, c'est pas ça.
C'est pas ça.
C'est plutôt ailleurs.
Ailleurs, la solution.
Bien, merci, M. Guy Kajemba, coordonnateur du groupe des travails climat RED+. Merci à Jordan Mayenikini, journaliste du média en ligne actualité.cd. Mesdames et messieurs, c'est par ici qu'il s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Tati Mapou, quoi assurer la coordination et la réalisation. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.